Leclerc.
À partir du 18 octobre, venez vous inscrire au grand tirage au sort du super jeu Leclerc. Avec à gagner un an de course. Et toujours 5, 10 ou 20 euros en bon d'achat et 50 euros en e-carte cadeau Leclerc à chaque passage en caisse.
Ah bah dis donc.
Et oui, c'est ça le super jeu des super pouvoirs d'achat. Leclerc.
Du 18 au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants.
Pour gagner, il faut jouer. Et oui,
Vous écoutez RTL.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre cabinet de curiosité, notre studio. Il est tout rouge et il est chaleureux, venez, on vous attend. Comment ça va, Sidonie?
Et oui, à vous, ça va super bien Thomas, merci beaucoup, bienvenue à vous. Beau programme ce soir encore, pour commencer une histoire du monde, pour savoir d'où nous venons et pour comprendre où nous allons. C'est ce que va nous proposer notre invité François Reynard. On se passionnera notamment pour notre civilisation occidentale que nous allons comparer avec la civilisation chinoise.
Et puis tenez-vous bien, on va faire entrer un ours dans le studio de la curiosité. Pas celui de Pimprenelle et Nicolas, un ours qu'on va pouvoir ausculter sous toutes
non,
les
coutures.
Un vrai. Est-ce que vous connaissez l'ours à lunettes? Est-ce que vous savez quand est apparu l'ours blanc? Est-ce que vous avez déjà assisté à la naissance d'un ourson? Non, forcément. Heureusement, notre invitée, elle, a déjà assisté à ça. Elle va répondre à toutes nos questions sur ces plantigrades qui nous ressemblent. Allez, tout de suite, on plonge dans le Darknet.
Nous n'avons pas commandé cette chaîne IFI, mais un objet dont la détention sans permis est punie de 3 ans de prison en France.
RTL.
À l'intérieur, caché et emballé, un revolver. C'est bien cette arme que nous avions achetée sur Internet pour 1000 euros.
Jusqu'à 22h.
Cette arme mortelle, nous l'avons achetée sur un site Internet qui n'est pas référencé par les moteurs de recherche que vous connaissez tous, comme Google ou Yahoo.
La curiosité est un vilain défaut.
Le vendeur se cache dans les méandres d'un Internet clandestin, le Darknet.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le Darknet, c'est un univers qui fait peur, présenté comme le supermarché de tous les vices. Il fait fantasmer peut-être aussi notre invité, en tout cas le journaliste Jean-Jacques Valette, l'a exploré pour le magazine Oui Demain. Bonsoir Jean-Jacques Valette.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans la curiosité. Il faut d'abord expliquer, on part de zéro, ce qu'est le Darknet. Pour le faire, dans le magazine, vous utilisez une image qui est parlante, c'est celle d'un iceberg. Alors la partie en surface de l'iceberg, c'est quoi?
Et bien en fait, la surface, ce serait, disons, la petite pointe, ce serait l'Internet qu'on connaît tous, donc ce serait tous les sites comme Le Bon Coin, Google, Facebook. Mm-hmm. En dessous, en fait, la partie vraiment immergée, ce qu'on appelle le Deep Web, c'est les 90% en gros d'Internet, c'est en fait une partie qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche. Par exemple, c'est votre boîte email, vous pouvez pas, les gens ne peuvent pas lire vos emails en tapant sur Google. Mm-hmm. Et donc en fait, ça peut être le back-office de notre site d'information, etc.
C'est le cloud, par exemple?
Le cloud, oui, ouais. Par exemple, tout à fait, rentre dans ce qu'on appelle le Deep Web. Et mm-hmm. en fait, encore en dessous, il y a ce qu'on appelle le Darknet, ou plutôt les Darknet, en fait, parce qu'il en existe plusieurs. Et ce sont des réseaux qui sont, somme toute, très, très modestes à côté de la taille de l'Internet. On parle de 3 millions d'utilisateurs pour Tor, dont je vais revenir. Et donc, voilà, ce sont des petits réseaux.
Alors,
qui sont fermés.
Vous allez un peu vite, là, parce que Tor, on va expliquer ce qu'est ce navigateur, en quelque sorte, l'espèce de Google, c'est ça, du Darknet. Quand vous dites 3 millions d'utilisateurs pour Tor, est-ce qu'on sait, est-ce que c'est possible de répondre à la question, combien de personnes utilise ce Darknet, cet Internet noir?
Eh bien, c'est un peu des estimations à la louche, c'est sûr, parce qu'en fait, la particularité de ce Darknet, c'est que tout y est vraiment caché, encrypté, sous plusieurs couches de sécurité. Toutes les connexions naviguent à travers plein d'ordinateurs et vraiment, c'est un milieu très opaque.
Mais alors, ça veut dire que ce Darknet, il faut être super pro pour y avoir accès, et en tant qu'utilisateur, futur acheteur, et en tant que vendeur de certains produits, c'est ça?
Et alors oui, moi, pour mon expérience, je suis parti un peu de zéro, hein, comme un internaute lambda, et c'est vrai que c'est pas facile, hein, il faut vraiment lire beaucoup. Après, quand on a une idée générale, ça devient assez logique, mais c'est vrai qu'au début, c'est pas très pratique.
Alors, on va pas donner le mode d'emploi, mais peut-être qu'il y a un point de départ. Est-ce que vous utilisez votre ordinateur personnel pour cette recherche que vous menez sur le Darknet, pour cet article?
Eh bien, pour l'article, en fait, j'ai acheté un ordinateur spécialement pour l'occasion, en liquide. Justement, j'ai voulu mener l'expérience jusqu'au bout, et c'était surtout parce que j'avais peur aussi de contaminer mon ordinateur avec des virus en allant sur des sites un peu louches. Je voulais vraiment aller au plus profond de l'Internet, voir ce qui s'y tramait.
Donc vous utilisez un ordinateur, acheté même en liquide, hein, ce que vous nous dites. Et quoi d'autre?
Alors en fait, il y a des logiciels, des systèmes d'exploitation, en fait, un peu comme Windows, mais qui fonctionnent depuis une clé USB. Comme ça, ça évite de laisser des traces sur l'ordinateur. Et donc voilà, j'avais donc mon ordinateur, j'ai démarré depuis une clé USB, et à partir de là, toutes mes connexions étaient bien encryptées. Je savais qu'il n'y avait pas de faille de sécurité dans mon système.
Donc Tor, vous l'avez évoqué, c'est le navigateur le plus connu, comme disait Thomas, c'est le Google du Darknet. D'où vient ce nom?
Alors Tor.
Et puis par qui il a été créé aussi?
Ah oui, c'est une longue histoire aussi. Mais alors Tor, ça s'appelle The Onion Router, donc c'est-à-dire le routeur en oignon, parce qu'il est conçu avec des couches successives. À l'origine, en fait, c'est la marine.
Comme des pelures d'oignon, quoi.
C'est ça.
Ah, voilà. D'accord.
Et ça a été créé par la marine américaine, en fait, aussi étonnant que ça puisse l'être. Et
attendez, vous êtes en train de nous dire que la marine américaine a créé un système qui aujourd'hui est utilisé par tous ceux qui veulent acheter ce qui est interdit.
Absolument.
C'est dingue.
Mais en fait, quand on y pense, Internet également a été inventé par le Pentagone.
Ouais.
Et donc, en fait, Tor a été un projet en fait, de l'armée pour créer justement des communications sécurisées. Et au début des années 2000, ils l'ont abandonné, peut-être pour quelque chose de mieux. Et une fondation, en fait, a repris le projet et l'a défendu.
Est-ce que les adresses Internet, ils sont différentes sur, sur ce moteur de recherche Tor, sur le
oui.
Darknet?
Alors, en fait, tout à fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas des adresses en .com, comme d'habitude, là en fait ça se fait des suites de chiffres et de lettres, donc elles sont impossibles à mémoriser en fait, et elles se terminent par un point .onion, justement en référence au réseau en oignon.
Jean-Jacques Vallette, est-ce qu'il faut être un as de l'informatique pour accéder au Darknet?
Alors, je dirais non. En fait, par contre, si on veut être, ne pas laisser de traces, en fait, c'est vrai qu'il faut éviter de faire certaines bêtises. Donc, justement, moi, j'ai voulu suivre un pas à pas pour être sûr de ce que j'ai.
Non, mais quand vous avez suivi un pas à pas, c'est-à-dire que vous avez été guidé, quelqu'un a dû quand même vous guider dans cet univers, vous êtes parti de zéro?
Ah oui, alors j'ai demandé des conseils à un ami hacker qui m'a donné quelques petits tuyaux pour commencer. Mais globalement, j'ai trouvé tous les tutoriels. Voilà, c'est pas si compliqué.
Mais vous les avez trouvés où, les tutoriels?
Ah, en cherchant en fait sur Internet normalement. En fait,
ouais.
C'est-à-dire que ça n'a pas forcément rien de confidentiel. C'est juste, j'ai utilisé un logiciel. D'ailleurs, c'est des Français qui sont derrière, qui s'appelle Tails, et donc c'est le navigateur anonyme. Il suffit de le télécharger en fait comme n'importe quel
Mais
programme.
Mais c'est illégal, non?
Bonne question. Est-ce que ouais. c'est illégal ce que vous avez fait?
Eh bien non, parce que c'est comme télécharger des torrents, on va dire.
Attendez,
pardon, voilà, vous êtes allé trop vite.
Quand les gens qui piratent de la musique, les logiciels qu'ils utilisent, donc on appelle ça un serveur torrent, ça n'a rien d'illégal. Ça peut, on peut utiliser le même logiciel pour télécharger des œuvres libres de droit. Tout dépend de ce qu'on en fait, en fait.
Mmh. Donc, sauf que sur ce darknet, on peut aussi acheter tout ce qui est illégal, tout ce qui est interdit, de la drogue, des armes, des faux billets, des faux documents, etc., etc. Vous vous étiez dit, vous vouliez acheter quoi, tiens?
Eh bien, alors, je m'étais donné un petit défi. Donc, justement, il me fallait justement une monnaie pour acheter donc, sur ce marché. Donc, mon défi, c'était acheter du modafinil. Alors, le modafinil, c'est rien de très scandaleux. Hein, c'est un médicament qui est sur ordonnance. Et j'avais fait un papier il y a quelques mois dessus parce que des biohackers avaient annoncé que donc, c'est un médicament pour les narcoleptiques. Et que, soi-disant, si des gens normaux qui ne souffraient pas de narcolepsie en prenaient, ça augmentait leur mémoire et leur concentration.
Une espèce de booster du cerveau, quoi.
C'est ça. En fait, ce serait la première drogue nootropique, c'est comme ça qu'on appelle, ce serait la première drogue qui augmenterait le cerveau.
Comment on paye?
C'est très compliqué. Ça, c'était une des étapes les plus longues, je trouve. En fait, les monnaies, vos euros ne vous servent à rien. En fait, il vous faut ce qu'on appelle des crypto-monnaies, dont la plus célèbre est le Bitcoin. Mais il en existe d'autres comme Monero ou Ethereum. Donc, pour acheter des crypto-monnaies, on peut les acheter de la main à la main en rencontrant des personnes.
Mais on les achète avec des euros?
Bien sûr.
Oui.
Moi, personnellement, je suis allé dans une enseigne reconnue qui s'appelle la Maison du Bitcoin, qui a Pignon-sur-Rue à Paris. Et donc, j'ai pu acheter des bitcoins, moyennant quand même 10% de frais sur l'argent.
Donc, alors, après,
ça coûte cher l'illégalité, en effet.
Après, on va essayer de comprendre comment on utilise ces bitcoins. Tout ça, c'est... Moi, je ne suis absolument pas un geek, je suis un peu perdu face à mon ordinateur, donc j'ai compris ce qu'était le Darknet. En revanche, comment on utilise ces bitcoins, cet argent, cette crypto-monnaie, comme vous dites, pour se procurer, je ne sais pas, des armes, de la drogue ou de la fausse monnaie, ça, j'ai envie de comprendre. C'est ce que vous allez nous raconter dans un instant.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Le Darknet, c'est un peu le Far West numérique des sites pour acheter tout ce qui est illégal. Comment ça fonctionne? Quels risques prennent ceux qui s'y connectent? C'est un monde caché que l'on découvre dans La Curiosité grâce au journaliste Jean-Jacques Vallette qui s'est plongé dans cet univers pour un article passionnant publié dans le magazine Oui Demain. Jean-Jacques Vallette, après de nombreuses recherches, pas mal de fausses pistes et de sites fermés, vous avez enfin trouvé ce que vous cherchiez, c'est une sorte de supermarché de tout ce qui est interdit. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce site ?
Sur le Darknet, en fait, on s'en fait quand même une mythologie assez effrayante. Moi, ma première impression, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir retrouvé l'Internet du début des années 2000, quand j'étais encore au lycée. Justement, j'ai eu un peu de mal à trouver justement ces fameux supermarchés de la drogue qui défraient la chronique, mais j'ai quand même trouvé. Et là, je n'ai pas été déçu, en fait.
Là, il y avait quoi sur ce site de... Alors, vous êtes, comme on peut aller sur d'autres sites, je ne sais pas, Amazon ou Le Bon Coin, là, on a toutes les offres, il y a une sorte de vitrine. Il y a quoi sur ce site du Darknet ?
Eh bien, comme annoncé, en fait, on y trouve absolument tout. C'est-à-dire que c'est un vrai Alibaba du marché noir. Ça va en fait des faux papiers aux différentes drogues jusqu'aux armes à feu en fait, aux virus.
Avec les prix en dessous, comme sur un site classique, des promotions ?
Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que les premières plateformes qui ressemblent en fait à eBay sont apparues dès 2011 avec un site qui s'appelait The Silk Road, la route de la soie. Et donc, ces plateformes se sont démarquées de toutes les autres qui existaient parce qu'il y avait beaucoup de sécurité en fait pour l'utilisateur, parce que c'est vraiment un Far West numérique où le moindre site, vous n'êtes jamais sûr d'être sur le bon, on va vous voler votre argent, vous voler vos identifiants, et donc la difficulté c'était de trouver le vrai site, et donc celui que j'ai trouvé pour l'occasion était vraiment très sécurisé, il y avait genre 3 mots de passe, une phrase d'accueil personnalisée.
C'est intéressant ce que vous dites, Jean-Jacques Vallette, parce qu'on n'est vraiment pas là pour donner un mode d'emploi, on est là pour comprendre ce qu'est ce Darknet. On prend des risques quand on y va quand même, c'est-à-dire qu'on prend quoi, le risque de se faire voler son argent, le risque de se faire voler son identité numérique, quel risque on prend, de se faire pirater son ordinateur, le contenu de son ordi ?
Oui, alors justement, moi je m'étais vraiment prémuni pour ne pas me faire pirater mon ordinateur. Après, c'est clairement un problème. Mais en général, c'est plutôt des arnaques qui sont basées sur la crédulité des gens en fait. Beaucoup de sites vont vous promettre par exemple une carte pour aller travailler aux États-Unis. Ils peuvent vraiment profiter de la crédulité des gens. Et une fois qu'on a fait un paiement en Bitcoin, c'est irréversible en fait. Alors maintenant, justement, il y a des systèmes, on appelle ça le séquestre ou escrow en anglais. C'est-à-dire que vous allez donner votre argent à un tiers de confiance qui va le garder jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que vous aviez commandé en fait.
Alors ce site sur lequel vous êtes allé, Jean-Jacques Vallette, dans ce Darknet, ce supermarché des produits interdits, vous dites que c'est une plateforme participative. Ça veut dire quoi ?
Eh bien, c'est participatif dans le sens où n'importe qui peut créer sa boutique, n'importe qui peut laisser des commentaires, des appréciations. Il y a même un service client, en fait. Bien sûr, ce ne sera pas une personne de téléphone, mais vous pouvez complètement communiquer avec votre vendeur, vous plaindre de ce que vous avez reçu. Et c'est très important parce que vu qu'il y a peu de confiance, en fait, la confiance est vraiment cruciale.
Les vendeurs sont en quelque sorte notés par les acheteurs, on peut dire ça ?
Ah oui, tout à fait, oui. J'avais justement un vendeur qui était, que j'avais trouvé assez drôle, si on peut le dire, qui avait vraiment un côté hippie. Il disait que ses acheteurs étaient des êtres de lumière, il les remerciait.
Il vendait de la drogue, lui, non ?
Ah, bien sûr.
Ouais. il vendait de la drogue. Donc, vous réussissez, on rappelle pour ceux qui nous rejoignent, après avoir sécurisé vos connexions, pris un ordinateur qui n'est pas le vôtre, etc., etc. Bon, d'accord, vous arrivez sur ce marché, ce supermarché de tout ce qui est interdit. Et là, bah vous tombez sur une annonce qui vous glace le sang en quelque sorte. C'est ce que vous écrivez dans cet article de Oui Demain. Pourquoi ?
Au début, j'ai regardé donc tout ce qui était. J'ai découvert qu'on pouvait, si on n'était pas un hacker, on pouvait devenir hacker juste en achetant un pack. J'ai regardé un peu le prix des différentes drogues, etc. Donc pour l'instant, c'était bon enfant. Et donc je suis allé voir forcément la page armes à feu. Et essentiellement, c'était rien. Enfin, c'était plutôt des sprays. Des choses pas si dangereuses. Et là, au milieu, en fait, je tombe là finalement sur des AK-47. Exactement. Enfin. En fait, l'histoire, c'est que j'ai perdu un ami au Bataclan il y a quelques mois. Et c'était techniquement le même modèle, c'est un fusil d'assaut serbe, en fait, qui avait servi et donc qui était en vente. Et mon projet, donc, était en fait finalement d'acheter un médicament parce que c'était rigolo, mettre de l'argent sur une plateforme. Je me suis dit, bah non, en fait, je peux pas faire ça parce que ça reste une mafia. Je ne vais même pas leur donner 3 euros.
Et ça ne vous est plus rire du tout, là.
Ah non, tout d'un coup, là, ouais, là, ça m'a fait un.
Ça veut dire que les terroristes utilisent le Darknet pour acheter du matériel, pour commettre leurs attentats ?
Justement, ce que j'explique, c'est que je pense que ça relève plus du fantasme parce que si on regarde vraiment dans les faits, le quotidien allemand Der Spiegel avait fait justement une étude approfondie d'où venaient les armes des attentats en France et il avait conclu que c'était au contraire des armes achetées dans la rue et qui d'ailleurs avaient transité par des filières d'extrême droite. Et donc en fait, rien à voir du tout avec le Dark Web.
C'est-à-dire que c'est une possibilité en fait.
Voilà, c'est une
possibilité. Les terroristes peuvent être des clients, des utilisateurs du Darknet, mais lors des récents attentats, on n'a pas prouvé que c'était la filière, on va dire, utilisée. C'est
voilà,
ça.
Et puis y a rien n'est magique, c'est-à-dire qu'il faudra de toute façon qu'ils se les fassent livrer, donc qu'ils donnent une adresse. Enfin, ça ne résout pas du tout le problème.
Par exemple, vous parliez du fusil AK-47, il faut se le faire livrer.
Oui.
Ça, c'est pas très discret, c'est ça.
Non, peut-être un pistolet serait plus pratique, bien caché. Mais...
Le Darknet, c'est donc bien un espace utilisé par les terroristes et les délinquants. Pourquoi n'est-il pas fermé? Peut-on aussi y trouver des espaces de liberté, au contraire, pour contrer les dictateurs du monde entier? Réponse tout de suite, les curieux, sur RTL.
Avec RTL, cultivez votre curiosité jusqu'à 22h.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Des membres du collectif Anonymous attaquent Lolita City, un site au contenu pédopornographique. Une opération pour dénoncer l'utilisation criminelle du Darknet, l'Internet invisible qui n'est pas référencé.
RTL.
Pas si simple pour Monsieur Tout-le-Monde d'y accéder. Il faut soit se connecter à des forums, soit par exemple télécharger le logiciel Tor.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Sur ce réseau, vous êtes anonyme.
Dans la curiosité, on aime découvrir ce qui est caché, ce qui fait peur et donc ce qui provoque beaucoup de fantasmes. Le Darknet fait partie de ces univers. Notre invité l'a exploré pour un article publié dans le magazine Oui Demain, Jean-Jacques Valette, sur le Darknet. Vous avez effectivement trouvé un supermarché de tout ce qui est interdit, drogue, faux papiers, des armes. Vous avez décidé d'arrêter, d'éteindre votre ordinateur quand vous avez vu en vente ce fusil AK-47, même modèle que celui qui avait servi au Bataclan, et vous avez perdu un ami dans cet attentat. Donc, même si on n'a pas fait la preuve que les armes utilisées par les terroristes ce jour-là avaient été prises sur le Darknet, il n'empêche que c'est un espace utilisé par les délinquants, potentiellement par les terroristes. Pourquoi il n'est pas fermé, tout simplement? C'est impossible?
Même après ce que je vous raconte, je suis complètement contre qu'on le ferme,
ouais.
Car je pense que c'est un lieu de liberté, en fait. C'est Internet, il n'y a pas besoin du Darknet. Sur Internet, vous pouvez déjà trouver le meilleur et le pire de ce que fait l'humanité. Mmh. Donc en fait, c'est un outil finalement assez neutre. Quant à le fermer, alors, il n'y a pas qu'un Darknet, il y en a plusieurs. Il y a aussi I2P, il y a Freenet. Donc il y aura toujours une technologie d'avance, de toute façon, sur comment anonymiser les transmissions entre les gens.
Oui, parce que le principe, c'est que toutes les discussions, transmissions ou même argent versé, etc., c'est crypté et c'est pas traçable, c'est ça. Hein,
c'est
on
ça.
Rappelle ce principe du
C'est un peu comme empêcher les gens de se parler quoi, dans oui. la rue, où on trouve toujours un moyen de communiquer.
Tout à fait.
De toute façon. Parce que bon. c'est un moyen de communication.
Donc vous dites que de toute façon, si on enfermait un, il y en aurait d'autres qui se créeraient, bien compris. Quand même, les fondateurs de sites, vous avez cité des sites dans lesquels on vend de la drogue, etc., etc. Certains ont été arrêtés parce que ce qu'ils font, c'est illégal.
Ah
on
oui,
va
bien
le rappeler,
sûr.
Hein, on l'oublie pas.
Il y a de gros doutes, en fait, finalement, même sur la sécurité de ces réseaux. Parce que donc Ross Ulbricht, qui est le fondateur de Silk Road, qui était donc le premier vrai supermarché de la drogue, il avait été capturé en fait par le FBI après une enquête qui avait duré plus d'un an. Et il l'avait finalement trouvé dans une bibliothèque où il se connectait comme ça pour ne pas être repéré.
Il est en prison, cet homme.
Il est en prison. Il a pris, je crois qu'il a pris quelque chose comme 50 ans de prison.
Alors. Mais son site a disparu, alors j'imagine.
Alors son site Silk Road a fermé, mais en fait, des petits malins ont créé Silk Road 2, puis Silk Road 3, et même Silk Road Reloaded, comme dans Matrix.
Ça veut dire évidemment que donc, quand on est usager aussi, on peut être condamné si on est repéré. Il y a une police qui patrouille sur le dark web.
Ah bah tout à fait. Alors justement, la difficulté, donc je vous parlais de ce problème de confiance, c'est par exemple sur les faux papiers. On sait par exemple que les services secrets américains vendent certains faux papiers justement pour trouver leurs acheteurs.
Les appâts.
Parce que justement, pour faire des bons faux papiers, il faut mettre une photo, il faut mettre...
Alors, ça peut choquer ce que vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas le fermer parce que c'est aussi un espace de liberté. On va expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que, par exemple, sur le Darknet, on va aussi trouver tout ce qui est censuré, tout ce qui est interdit, parce que c'est interdit de tenir des propos, par exemple, antisémites ou d'appeler à la haine raciale ou à la pédophilie, etc. On trouve tout ça sur le Darknet. Ce qui est intéressant, on l'a entendu dans la mise en onde d'André Facetta, c'est qu'il y a des utilisateurs du Darknet qui luttent contre ça, par exemple contre la pédophilie. Comment ?
Eh bien oui, tout à fait. Alors, vous avez notamment les célèbres Anonymous qui sont présents là-bas, c'est un peu leur QG, quoi, leur repère.
Ouais.
Alors du coup, dans mes recherches, une de mes premières portes d'entrée, c'était un site qui s'appelait The Hidden Wiki, qui est une sorte de Wikipédia qui servirait un peu d'annuaire pour se retrouver sur les sites. Et donc ce site-là, notamment, est fréquemment en fait hacké. Donc, des gens essaient de mettre en avant leur boutique, mais également parfois il y a des liens pédophiles qui apparaissent dessus. Mm-hmm. Alors heureusement, en fait, ce milieu s'autorégule déjà, on peut dire, car nombreux de ces sites sont faux, en fait, et sont faits pour appâter justement des vrais pédophiles pour après pouvoir les dénoncer.
Mmh. D'accord. Donc, c'est des sortes de citoyens, c'est ça ?
Voilà, il y a des sites.
Du dark web.
En fait, on peut dire que c'est une sorte de Far West numérique et il y aurait des cyberjusticiers.
On évoquait aussi le côté positif, c'est ce que vous sous-entendiez quand vous disiez, il ne faut pas supprimer ce dark web, c'est que c'est un espace de liberté, ça veut dire que l'on peut s'exprimer, on peut faire passer des messages qu'on n'a pas le droit de faire passer, par exemple quand on est dans un pays qui, comme en Corée du Nord, interdit de communiquer, d'utiliser des sites internet. Là, le dark web est le seul moyen de communication ?
Ah oui, tout à fait. Alors, en fait, les quelques données qu'on a, on sait à peu près qu'il y a seulement un tiers des utilisateurs qui sont américains sur le dark web. Ça veut dire que le reste vient massivement de pays qui sont confrontés à la censure. Et notamment des organisations comme Reporters sans frontières utilisent le dark web pour rester en contact avec leurs journalistes et éviter que leur communication soit épiée ou qu'ils soient même menacés.
Vous avez trouvé aussi des associations de femmes battues, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il y avait une association justement permettait ainsi à des femmes battues de contacter les autorités sans se mettre en danger auprès de leurs proches.
Mmh. Donc il y a du positif aussi sur ce darknet ?
Oui, tout à fait. C'est justement, et peut-être que ce petit darknet aura une influence mondiale, car on le voit déjà avec les scandales comme Panama Leaks, LuxLeaks et tout ce qu'a fait
Julian Assange.
Ouais. Justement, c'est passé grâce au darknet qui a permis à des gens de façon anonyme de donner des preuves et qui ont mené à des scandales mondiaux.
Donc les lanceurs d'alerte, en quelque sorte, ils utilisent eux aussi ce système dans lequel les conversations, les transmissions sont protégées, sont cryptées. C'est quoi un lanceur d'alerte ? Vous nous le rappelez en deux mots ?
Eh bien, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui, de façon anonyme en général, va révéler des informations de l'organisation dans laquelle il travaille, car il pense que, justement, la loi a été enfreinte. C'est quelqu'un qui se met en danger pour le bien de tous.
Merci beaucoup, merci Jean-Jacques Vallette. Votre article est à lire, on vous le conseille, dans le magazine Oui Demain.
Et tout de suite, on se traite d'ours.
Vous écoutez RTL.